Voilà, il est 26 degrés la maximale pour Strasbourg et Colmar. Alors dans le ciel, on a beaucoup de pluie en ce 1er mai. On a une perturbation qui touche tout le grand quart sud-ouest, hein, ça va vraiment du centre-Val de Loire jusqu'au pourtour méditerranéen avec des pluies soutenues sur la Provence et la Corse. Cet après-midi, les orages se développent, beaucoup d'orages entre la Provence et le sud Bourgogne en passant par la vallée du Rhône, en passant également jusqu'au centre-Val de Loire. Alors là, on a des orages soutenus, des pluies fortes avec de la grêle attendue, ça va être très agité. Des orages également sur les Pyrénées, le soleil lui résiste en Alsace, en Lorraine et entre la Bretagne et le Pays Basque. Tout le long de la façade atlantique, on a des éclaircies. Et puis quelques éclaircies aussi à noter entre les Hauts-de-France et la région parisienne.
Merci Anissa Haddadi. Dortmund, PSG, dernier territoire à conquérir pour Kylian Mbappé qui rêve de briller en Ligue des Champions. Le Ballon d'Or, il y pense aussi. Tiens, le matin, en se rasant, on l'a lu pour vous dans la presse. On vous en parle dans le pressing après les infos. Bon réveil, voici votre journal. Il est 6h sur Europe 1. Europe 1, bonjour.
5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche. Thomas à Crépol, Matisse à Châteauroux, les derniers cas les plus retentissants des attaques au couteau qui se multiplient en France. Europe 1 a pu consulter une note de la police judiciaire et vous révèle ce matin le profil des agresseurs. Dans 63% des cas, ils sont déjà connus des services de police. Le mercredi 1er mai s'accompagne des traditionnelles manifestations et changements sur votre facture de gaz, par exemple, pour votre compte professionnel de formation. Et sur le dispositif MaPrimeRénov', on va faire le point dans un instant. On vient de l'apprendre, le grand romancier américain Paul Auster est mort à l'âge de 77 ans. On va y revenir dans un instant. Et puis ce document exclusif Europe 1, 30 ans déjà que la légende de la Formule 1 Ayrton Senna a trouvé la mort sur les circuits. Son ami Alain Prost se souvient de leur rivalité devenue mythique au micro de Jacques Vendroux. Le journal de 6h, Nina Pavant. Bonjour Nina.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Que la justice soit faite, c'est l'appel du père de Matisse, 3 jours après la mort de son fils, poignardé samedi à Châteauroux, par un jeune du même âge que lui, 15 ans, aidé par sa mère de nationalité afghane en situation régulière qui a frappé la victime. L'enquête pour meurtre se poursuit et les attaques à l'arme blanche se multiplient en France. William Molinier, vous avez pu consulter pour Europe 1 une étude de la police judiciaire qui permet de dresser un portrait des auteurs d'homicides par arme blanche.
En France, l'âge moyen des victimes d'homicides par arme blanche est de 38 ans, un quart à moins de 26 ans. L'accélération de ce phénomène, qui se vérifie aussi au niveau européen, touche surtout les jeunes. Quant aux auteurs, ils sont majoritairement des hommes, âge moyen 33 ans, déjà connus des fichiers de police dans 63% des cas. Par ailleurs, selon cette étude de la police judiciaire qu'Europe 1 s'est procurée, 26% des auteurs d'homicides au couteau sont des étrangers, 53% sont sans emploi. Dans 3 cas sur 10, ils ont consommé de l'alcool au moment des faits. Les enquêteurs notent cependant que le taux de résolution de ce type d'homicide est très élevé. 9 meurtres sur 10 ne restent pas impunis. C'est un de plus que pour les meurtres par arme à feu. Ce qui s'explique, selon les policiers, par la proximité entre l'auteur et la victime lors du passage à l'acte. La présence d'ADN permet ainsi de favoriser l'identification du tueur.
William Molinier.
Ni harcèlement scolaire, ni manquement de l'éducation nationale, ce sont les conclusion de l'enquête administrative après l'agression de Samara.
Cette adolescente de 13 ans tabassée à la sortie de son collège à Montpellier le 2 avril dernier, sa mère conteste fermement ses conclusions et continue à évoquer des manquements dans la protection de sa fille. En revanche, ce rapport pointe du doigt le rôle joué par les comptes Ficha. Camille Moreau, on parle là de comptes sur les réseaux sociaux qui relaient des vidéos et des messages malveillants.
Sur Instagram ou Snapchat, les comptes Ficha du Verlan Affiche peuvent être créés par n'importe qui et sont accessibles à tous. Vidéos intimes non consenties, photos, montages moqueurs. Le contenu est toujours malveillant, raconte Lina, 16 ans.
J'ai déjà eu une amie qui s'est déjà fait, on va dire, harceler. Ou des vidéos juste d'elle dans la rue, ou des nudes ont été envoyées, mis sur des comptes, ou tout le monde insulté sur les republications.
Une vague de cyberharcèlement qui peut avoir des répercussions répercussions dans la vraie vie, détaille Lisa Reynaud, cofondatrice de l'association Stop Ficha.
Il y en a certaines qui ont peur d'aller à l'école parce qu'elles ne savent pas qui a reçu, qui a vu. Il y a des troubles au niveau scolaire qui vont se créer, il y a une perte de confiance en l'humain. On a beaucoup de personnes qui sont complètement désemparées face à ces situations et qui clairement pensent qu'au suicide parce que pour eux c'est la seule issue.
L'association Stop Ficha accompagne des dizaines de victimes tous les jours. Elle propose des séances d'écoute avec des psychologues bénévoles, mais aussi une aide légale pour connaître ses droits et porter plainte.
Camille Moreau, dans la Loire, à Saint-Chamond, une élue menacée de mort, selon le maire de la ville, relayée par Le Progrès. Isabelle Surplis, proche de Marion Maréchal, est visée par des tags appelant à son égorgement. C'est la deuxième fois en quelques mois qu'elle est menacée.
Au Proche-Orient, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, rencontre ce matin le Premier ministre israélien à Jérusalem.
Benjamin Netanyahou, qui annonce une offensive sur Rafah dans le sud de la bande de Gaza, accord de trêve ou pas, le Hamas qui a jusqu'à ce soir pour donner son accord à 40 jours de cessez-le-feu, la libération des otages israéliens et de plusieurs milliers de prisonniers palestiniens. Le soutien à Gaza qui a secoué le campus de Sciences Po Paris vendredi dernier se propage dans le reste de la France. Des mobilisations étudiantes touchent désormais les sites de Sciences Po Menton, Lyon, Grenoble ou encore Toulouse.
Il est 6h05 sur Europe 1. Vous le savez, nous sommes le 1er mai. Vous allez peut-être recevoir ou offrir un brin de buguet, mais vous avez aussi plusieurs changements à noter.
Lina. Sur votre compte professionnel de formation, pour le dispositif MaPrimeRénov ou encore sur les franchises pour les consultations médicales, on fait le point ce matin avec vous, Tiffaine Dubuard.
Après une tendance à la baisse ces derniers mois, le prix du gaz naturel repart à la hausse. À partir d'aujourd'hui, le kilowattheure coûtera 1,4% plus cher. Autre mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat, dès demain, les salariés devront débourser 100 euros pour avoir accès à une formation via leur compte CPF. Et selon le décret publié au Journal officiel, ce montant pourra être revu chaque année. Du côté des prestations sociales, le RSA et certaines allocations seront revalorisées, plus 4,6% à partir du 6 mai. Du changement à venir aussi pour MaPrimeRénov. Dès le 15 mai, les maisons classées F et G pourront bénéficier d'aides pour leur rénovation. Et puis, pour un changement de chaudière ou des travaux d'isolation, vous n'aurez plus besoin de faire un diagnostic de performance énergétique. Enfin, également à la mi-mai, les franchises sur les consultations médicales vont doubler et passeront d'1 à 2 euros.
Tiffaine Dubuard, et pour ce 1er mai, jusqu'à 150 000 manifestants sont attendus un peu partout en France, selon leur enseignement territorial, dont 15 à 30 000 sur Paris. Les syndicats qui ont appelé d'une même voix à la manifestation contre l'austérité pour l'emploi et les salaires. Le monde de la littérature en deuil ce matin. Le romancier américain Paul Auster est mort à l'âge de 77 ans. Il souffrait d'un cancer. L'auteur de Moon Palace, Léviathan ou encore Mister Vertigo disait de lui « Je suis débutant à chaque fois que je commence un livre ». Il a notamment été nommé commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2007.
Allez, plus qu'une semaine avant l'arrivée de la flamme olympique en France, elle va arriver par la mer, elle va débarquer du 3 mai, le Belém, ce sera à Marseille le 8 mai prochain.
Dans tout juste une semaine, la flamme olympique qui va rayonner sur le vieux port de Marseille après une parade majestueuse tout autour de la rade, puis une grande fête populaire et justement les professionnels de l'hôtellerie-restauration se préparent avec impatience à accueillir les touristes, Stéphane Burgat.
Ce jour-là, tout le personnel sera sur le pont. Sur le Vieux-Port, l'hôtel carré de Nicolas Guyot affiche complet depuis longtemps.
Depuis un an, nos établissements sont remplis.
Les hôtels du Vieux-Port sont pris d'assaut. Écoutez, à moins de partager la chambre avec quelqu'un d'autre, ça va être un peu compliqué. Ouais.
Des réservations effectuées massivement par les sponsors de la Flamme Olympique pour inviter leurs clients. Et entre les cocktails et autres événements, les agences d'intérim spécialisées sont sollicitées à l'image de Jean-Philippe Carmona, directeur de Victory Intérim.
Il y a besoin vraiment de bras. Plus on rentre dans la date qui arrive, plus ça devient impressionnant et compliqué. De l'ordre d'une centaine d'emplois qu'on attend sur l'arrivée de la flamme.
Et en ce jour férié, les restaurateurs du Vieux-Port comme Frédéric Jean-Jean s'attendent également à un afflux touristique majeur.
On est prêt à faire face. Et tous les confrères sont prêts à faire face. Les heures, on les compte pas. On est en train de regarder, mais je pense qu'il faudrait doubler l'équipe. On va être effectivement en pleine effervescence.
Effectivement, en tout, 150 000 personnes sont attendues pour assister à la parade maritime et l'arrivée de la flamme olympique. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
En football, ce soir à 21h, le PSG affronte le Borussia Dortmund pour les deuxièmes demi-finales aller de la Ligue des Champions. Hier soir, pour le premier round, ça s'est terminé sur un nul de partout entre le Bayern Munich et le Real Madrid.
Il y a 30 ans exactement, Nina, la légende de la Formule 1, le Brésilien Ayrton Senna, perdait la vie sur le circuit d'Imola.
C'était le 1er mai 1994, la Williams blanche et bleue du numéro 2 percutait de plein fouet le mur du virage du Tamburello. Alors, au-delà du palmarès, 3 titres de champion du monde, 41 victoires et 65 pole positions, on se souvient surtout de la rivalité Senna-Prost. Et en exclusivité ce matin sur Europe 1, Alain Prost, l'éternel concurrent et ami d'Ayrton Senna, revient sur la carrière mythique du Brésilien.
Un pilote comme Ayrton, bien sûr qu'il a... Il m'a élevé en termes de niveau, parce qu'on a vraiment mis le niveau quand on était chez McLaren, à un point incroyable, avec un travail acharné. Et puis, je me rappelle beaucoup plus de la période de l'après-course, parce qu'on est redevenu beaucoup plus dans l'humain et dans, un peu dans le secret, dans l'intimité. Alors qu'avant, on était pro-Prost ou pro-Senna, on ne pouvait pas être les deux, ce qui est un peu dommage, mais je ne fais pas, j'ai pas du tout de prétention à dire encore aujourd'hui je suis le meilleur. Tout le monde, tous les pilotes pensent qu'ils sont le meilleur. J'étais certainement un des plus complets, ça c'est certain. Et je pense avoir aussi beaucoup aidé, d'ailleurs, Ayrton, quand on était ensemble, dans son approche. Et ça reste une période formidable.
Alain Prost au micro Europe 1 de Jacques Vendrouet. Cette rivalité mythique Prost-Senna, eh bien c'est à retrouver dès à présent sur le site europe1.fr.
Merci Nina Pavan, 6h10 sur Europe 1.
Europe 1 bonjour, 5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Bienvenue si vous nous rejoignez, on vous souhaite un excellent 1er mai à toutes et à tous. À l'écoute d'Europe 1, bien sûr, c'est votre pressing, la revue de presse d'Europe 1. Bonjour, avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre, bonjour Omblin.
Bonjour.
Bonjour à tous.
De quoi allez-vous nous parler? Qu'avez-vous lu dans la presse?
Football, et si c'était la bonne année pour Kylian Mbappé? La bonne année pour remporter le Ballon d'Or.
Avec un grand rendez-vous ce soir.
Exactement.
Omblin.
Je vous parle du Muguet, on est le 1er mai. Mais pas simple d'être producteur de Muguet.
Alors, à lire également dans la presse, les chers auditeurs, les Français s'intéressent aux européennes. En tout cas, de plus en plus, ce sont les seules élections où le taux d'abstention est en baisse depuis 10 ans. Dimitri, on parle d'abord football. On va se chauffer la voix parce qu'il y a un grand match qui nous attend ce soir.
Eh oui, vous le savez sûrement, on vous en parle depuis le début d'Europe 1. Bonjour, à 21h, le Paris Saint-Germain joue son match aller des demi-finales de la Ligue des Champions face aux Allemands de Dortmund, match capital.
Vous le sentez l'espoir là
Forcément, c'est un match capital pour les Rouges et Bleus en quête, bien oui, vous le savez, de cette coupe aux grandes oreilles, le plus prestigieux trophée européen. Alors oui, il y a cette petite effervescence qui monte. On va pas s'enflammer non plus, mais on se dit quand même que cette année, c'est peut-être la bonne pour le PSG. Peut-être la bonne également pour Kylian Mbappé, eh bien oui. Et le Ballon d'Or, c'est la question posée par le Parisien ce matin.
Qu'il n'a pas encore.
Il ne l'a jamais obtenu d'ailleurs.
Il est la Ligue des Champions.
Le Ballon d'Or, pour rappel, c'est le trophée individuel qui récompense le meilleur joueur de la saison.
Le Graal, un rêve pour le capitaine des Bleus. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Il fait une très grosse saison, Mbappé. Déjà 43 buts pour lui et 10 passes décisives. Il en a donc bien conscience, remporter cette Ligue des Champions avec le PSG. Ça lui permettrait sûrement de faire un coup double en remportant également le Ballon d'Or, les deux trophées majeurs manquants en fait à son palmarès.
Alors on a envie de croiser les doigts pour Kylian Mbappé, mais il y a quand même beaucoup de si dans votre histoire.
Rien n'est encore joué, surtout qu'il y a beaucoup d'autres joueurs dans la course également qui ont eux aussi de très belles statistiques, de buts, de passes décisives, et comme souvent bien pour les départager, ce seront les victoires collectives qui vont compter. Comme la Ligue des Champions pour le PSG, pour le Real Madrid, ou encore bien l'Euro 2024 cet été avec les sélections. Donc cette fois, ça sera avec les Bleus pour l'équipe de France. Donc conclusion, Mbappé, il est bien parti pour ce Ballon d'Or 2024. Mais attention quand même, en quelques matchs, mais il pourrait bien tout perdre.
Bon, on verra ce soir à 21h, Dortmund.
Ah, on est pressé.
Chaque année, on attend. Et si cette année, c'était la bonne.
Allez, on enlève les crampons. Le journal Le Monde se demande pourquoi les élections européennes suscitent un intérêt inattendu chez les Français. L'abstention reste forte, attention. Mais en France, en tout cas, c'est la seule élection qui voit son taux d'abstention diminuer depuis 10 ans.
Et il en est où d'ailleurs, Alexandre? Alors, le taux d'abstention.
On regarde un petit peu dans le rétroviseur. Le journal Le Monde nous rappelle les chiffres. Si on prend 2014, par exemple, il y a 10 ans, le taux d'abstention aux européennes, il était à 57%. Ah oui. Mais aux élections suivantes, 2019, il est tombé à moins de 50%. Ce sont les dernières élections en date. Ça veut dire quoi? Qu'on a basculé, symboliquement. On a maintenant un tout petit peu plus d'un électeur sur deux en France qui se déplace pour aller voter aux européennes. Alors, bon, il n'y a pas de quoi sauter au plafond non plus, ça reste évidemment une abstention très forte.
C'est très étonnant de voir que les européennes sont les seules élections où en fait l'abstention baisse, et on sait pourquoi.
Alors Le Monde avance plusieurs raisons. Il y a d'abord la crainte d'un Frexit, après le Brexit, la crainte d'une sortie de l'Europe, dans une partie de l'électorat. Il y a la guerre, bien sûr, aux portes du continent, la guerre en Ukraine. Là, ce sont des questions, on le voit, qui s'invitent de plus en plus souvent dans le débat public. La possibilité, l'éventualité évoquée par Emmanuel Macron d'envoyer des troupes en Ukraine. Il y a quelques jours encore, le président qui s'est dit pour un débat sur une défense européenne avec l'arme nucléaire française. Vous savez que depuis le Brexit, on est le seul pays en Europe dans l'Union européenne à avoir l'arme nucléaire. Autre raison encore, l'intrication des questions nationales internationales. Là encore, exemple très concret, quand on parle du poids des normes pour les agriculteurs, on en a beaucoup parlé sur Europe 1. On sait que ces normes, elles sont souvent européennes.
Ah oui, on parle d'Europe, forcément.
Et puisqu'on parlait d'Emmanuel Macron, on verra aussi si les européennes mobilisent sur fond d'effets sanctions dans les urnes, sanctions de la majorité pour ce prochain scrutin. Ouais. Rendez-vous donc le 9 juin, et seulement le 9 juin, je vous le rappelle, il n'y a qu'un seul tour. Je vous rappelle aussi ces européennes sont en France, à l'heure actuelle, la seule élection à la proportionnelle.
Et les Français se rendent compte de l'importance de l'Europe, en fait, finalement. Et en plus de ça, vous le disiez, il y a cette élection de mi-mandat, entre guillemets. Donc il y a beaucoup de facteurs qui sont comme ça, qui s'imbriquent et qui font qu'il y a un vrai intérêt des Français pour cette
élection. Exactement, il y a une campagne, il y a des sondages qui tombent et qui sont largement commentés. Donc on sent un intérêt c'est véritable. Omblin.
Oui, le joli mois de mai est arrivé, ça ne vous a pas échappé, on n'arrête pas de le dire. Et avec lui, les brins de muguet qui fleurissent aux quatre coins des rues, vendus sur des stands improvisés chez votre fleuriste au supermarché. Des petites clochettes bien fragiles, nous dit le quotidien gratuit 20 minutes. La culture subit depuis quelques années un certain nombre de difficultés.
La faute au dérèglement climatique, j'imagine.
Voilà, vous imaginez très bien, mon cher Dimitri. Vous n'êtes pas sans savoir que 90% des fleurs vendues de muguet dans tout le pays poussent du côté de Nantes, sol sableux. Voilà, 12 mois de travail pour être prêt à la bonne date, écrit 20 minutes. Des producteurs nantais qui, cette année, ont dû composer avec une météo capricieuse et imprévisible.
C'est
entre les tempêtes d'avril, les hausses importantes de température, c'est allé presque jusqu'à 30 degrés, et puis les gelées du matin. Un coup d'orage et tout est perdu. Selon un producteur à Saint-Julien-de-Concelles, c'est pas dit, je cite, qu'on arrive à sauver les meubles chaque année. Sa cueillette de muguet a commencé le 13 avril, 4 jours plus tôt que prévu.
Oui, il est en avance cette année, le muguet.
Voilà. Alors, 4 jours, vous allez me dire, c'est rien, on entend les bronzés jusqu'au mois de juillet. C'est à force d'avancer comme ça.
C'est pour conserver ce muguet ensuite.
Voilà, mais alors déjà c'est conservé, mais en fait il craint désormais que le muguet soit donc de plus en plus précoce. Année après année, obligé d'attendre le 1er mai.
Donc il aura fané le 1er mai, ça sera l'inversé.
Alors certains aimeraient que les ventes des petites clochettes démarrent mi-avril, en tout cas beaucoup plus tôt.
Qu'on change la date.
Ouais, exactement. Certains avancent de changer la date de la fête du travail. Bon, alors déjà, c'est bon. La vente de muguet.
De la changer ou de l'étendre. Ça, c'est une autre option.
Voilà. En tout cas, si, selon eux, si on ne change pas la date de vente des muguets, des brins de muguet, la filière pourrait payer les pots cassés. Ceci étant dit, sachez que cette année, quand même, le muguet est beau, de bonne qualité, sa production est stable. Bon. Les mots de la Fédération des maraîchers nantais.
Bon, le réchauffement climatique, très bien, c'est peut-être pas la seule raison.
Ah voilà, manque de main-d'œuvre, Alexandre. On comptait des dizaines de bras pour ramasser les fleurs, ce n'est plus le cas. Des milliers d'offres d'emploi saisonniers peinent à trouver preneurs désormais. Certains cueilleurs se manifestent à la dernière minute. Le muguet, culture traditionnelle qui reste l'une des rares à être intégralement manuelle. Donc c'est un travail assez compliqué. Ça cloche avec le muguet, le jeu de mots du quotidien. 20 minutes, c'est pas moi. Article sur le site du journal 20minutes.fr.
Ça cloche avec le muguet. Le business du muguet, on va y revenir, tout à l'heure dans Europe 1 Bonjour, à 7h20 après les infos de 7h30, de 6h30, je vais recevoir Farel Legendre, il est le président de la Fédération des fleuristes, lesquels s'agacent de voir des vendeurs de rue vendre du muguet à la veille ou à l'avant-veille du 1er mai. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une tolérance, ce qui n'est pas le cas. cas pour les joueurs qui nous ont précédés. On va en parler donc à 7h-20. C'était le Pressing, votre revue de presse dans Europe 1. Bonjour. Merci Dimitri Vernet.
À demain.
Dimitri. N'oubliez pas, chers auditeurs, votre rendez-vous ce matin avec Culture Média, dès 9h avec Thomas Hill et ses chroniqueurs. Ils font le tour de l'actualité médiatique et culturelle. Les invités ce matin, Omblin.
Artus et Alice Belaïdi pour le film Un petit truc en plus qui sort en salle aujourd'hui. Culture Média, 9h-11h, 9h30, 11h sur Europe 1.
9h30, exactement.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Dans un instant, sur Europe 1, la partition de Serge Reggiani. D'abord, le journal permanent à 6h19, Nina Pavan.
Trois jours après la mort de Mathis, poignardé samedi soir à Châteauroux, le père de la victime appelle à ce que justice soit faite. Son agresseur de 15 ans est mis en examen pour meurtre. La mère de l'agresseur a reconnu avoir porté des coups à la victime. Pour la fête du travail, jusqu'à 150 000 manifestants attendus aujourd'hui un peu partout en France, dont 15 à 30 000 sur Paris, selon les chiffres du renseignement intérieur. La littérature en deuil ce matin, le romancier américain Paul Auster est mort à l'âge de 77 ans des suites d'un cancer. Géant de la littérature, il est notamment l'auteur de Moon Palace, Léviathan ou encore Mister Vertigo. Météo France place ce matin 14 départements en vigilance orange pour risque d'orage, de la Somme jusqu'à Lyon en passant par l'Île-de-France. Et puis du football à suivre ce soir, 21h, le PSG affronte le Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions.
Merci Nina Pavan.
Europe 1.
6h20 sur Europe 1, votre partition Omblin Roche, vous la consacrez ce matin à deux monstres sacrés de la chanson française. Ils sont nés d'ailleurs tous les deux au début du mois de mai.
Oui.
Vous revenez sur la rencontre entre Serge Reggiani et Georges Moustaki.
Alors il existe des collaborations qui transcendent la chanson française. Ce tandem à la fin des années 60 en fait partie. Georges Moustaki a écrit pour Serge Reggiani certains de ses plus beaux textes.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi ça et là, aux quatre coins du monde.
Il y a bien quelqu'un qui est à l'origine de leur rencontre, Omblin.
Oui, la chanteuse Barbara, alors qu'elle cherche une première partie pour son récital à Bobino, elle va écouter Serge Reggiani au cabaret Don Camillo dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés.
Oui, parce que jusqu'alors, Serge Reggiani, il était surtout célèbre pour ses rôles au cinéma.
Oui,
hein.
C'est vrai, l'Italien a déjà derrière lui 20 ans de carrière sur grand écran et sur les planches. Pour rappel, en 1952, Serge Reggiani est celui qui donne la réplique à Simone Signoret dans Casque d'or. 10 ans plus tard, lors d'un dîner chez la comédienne et son mari Yves Montand, ils discutent à table avec un homme à l'accent bulgare, fou de jazz et de chansons, le découvreur de talent, Jacques Canetti. Après s'être raconté leurs histoires d'immigrés, ils rêvent d'un projet commun, un album avec des chansons inédites de Boris Vian.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps.
Voilà, les chansons de Serge Reggiani finissent donc par arriver aux oreilles de Barbara.
Voilà, Barbara le prend sous son aile, l'enferme chez elle, le fait travailler, répéter. Elle lui enseigne les bases de la respiration ventrale, des techniques de chant qu'il n'oubliera jamais. Elle l'aide à développer ses qualités de baryton naturel. On murmure qu'à l'abri des regards, il se serait aimé. Dès lors, des nombreux auteurs et compositeurs se bousculent à la porte de Serge Reggiani, Jean-Loup Dabadi ou Serge Gainsbourg. Barbara souhaite présenter son poulain à Georges Moustaki, qui a notamment écrit pour elle La Dame Brune.
Votre fille a 20 ans, que le temps passe vite, madame hier encore, elle était si petite, et ses premiers tourments sont vos premières rites, madame, et vos premiers soucis.
Où en est la carrière de Georges Moustaki quand il fait la rencontre de Serge Reggiani?
Eh bien, on peut dire qu'il est au creux de la vague. Hein. Il n'écrit pratiquement plus ni pour lui ni pour personne. Barbara lui demande de venir le rejoindre à Caen. Il ne sait pas encore, Georges Moustaki, qu'il s'apprête à rencontrer l'un de ses acteurs fétiches. Georges Moustaki et Serge Reggiani échangent leurs premiers mots dans le train sur le trajet du retour en direction de Paris.
Oui, parce que pour lui écrire des chansons, Georges Moustaki, il a besoin de le connaître.
Absolument, et pas seulement à travers les rôles qu'il a tenus au cinéma. Il invite donc Serge Reggiani à séjourner chez lui. lui, rue des Deux-Ponts, sur l'île Saint-Louis. L'apprenti chanteur se raconte, il lui dit ce qu'il aime chez les femmes en particulier. Et aux jolies filles à la silhouette élancée, il préfère celles au visage marqué par des années, par les drames et les ruptures.
La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les yeux cernés par les années, par les amours, au jour le jour.
Alors pour lui écrire cette chanson, Sarah, Georges Moustaki va se souvenir d'une vieille histoire d'amour.
Oui, la sienne.
La sienne,
son
oui.
Son histoire avec Édith Piaf, de 20 ans son aîné. Georges Moustaki raconte s'être replongé dans ses émotions d'alors, tout en mêlant insidieusement, dit-il, le physique de Barbara, Sarah. Mais aussi ma solitude. Votre fille a 20 ans. Georges Moustaki offre à Serge Reggiani un répertoire à la hauteur de son talent qu'il incarne comme une seconde peau. Il rappelait d'ailleurs bien volontiers que Serge Reggiani avait refusé sa chanson Le Métèque. Le voici sur Europe 1 qui interprète Ma Liberté.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. Cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Juliette.
Ma liberté par Serge Reggiani sur des mots et des notes de Georges Moustaki dans la partition sur Europe 1. Tous les deux sont nés au début du mois de mai. Serge Reggiani le 2, Georges Moustaki le 3 mai. Vendredi d'ailleurs, nous célébrerons le 90e anniversaire de sa naissance.
Merci Ombline Roche, très bon début de matinée à tous ce 1er mai sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez ce matin.
Vous êtes bien, vous êtes réveillé, on est heureux de vous accueillir et vous écoutez Europe 1. Bonjour, 5h-7h.
Dans la prochaine demi-heure, Ombline Roche,
on va retrouver les correspondants d'Europe 1 pour la revue de presse internationale.
On ira au Brésil en particulier, le Brésil qui vient de produire son tout premier prototype de voiture volante. Premier vol commercial prévu fin 2025. À 7h moins le quart, les initiatives positives. Rendez-vous comme chaque matin avec Jean Z.
Ah bah tiens, nouvelle technologie toujours. Hein. On parle intelligence artificielle ce matin avec une IA capable de comprendre la langue des signes et de répondre en temps réel en langue des signes. Dans 10 minutes, votre interview écho, Alexandre
Lemaire. Oui, elle aura un parfum de muguet ce matin, l'interview écho. C'est toujours un plaisir d'en offrir ou d'en recevoir. On en trouve partout du muguet. On va en trouver partout aujourd'hui chez le fleuriste, bien sûr, mais aussi dans la rue. Or, c'est ce qui agace les fleuristes. Hein. En dehors de la tolérance du 1er mai, ils s'en vont de plus en plus tôt, à la veille, à l'avant-veille. Ils réclament donc une stricte application de la loi. Farel Legendre, président de la Fédération des fleuristes, sera mon invité après le journal à 7h-20 sur Europe 1.
Le temps pour ce mercredi 1er mai, Anissa Dadi à 6h28, c'est une journée très pluvieuse. Hein. C'est une tradition aussi le 1er mai, la journée de pluie.
Oui, je suis en train de faire une petite liste là, Cluedo, Kems, Scrabble, Petit Bac.
Pour occuper la journée.
Il va falloir occuper les enfants. Aujourd'hui, à moins que vous aimiez partir à la chasse aux escargots.
C'est mieux qu'avec des écrans. Hein. Les jeux de société, vous avez raison.
Franchement, un petit bac, on peut se marrer.
Voilà. Hein.
Bon, alors, aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est une journée, il va falloir rester à la maison, une journée très pluvieuse, du pourtour méditerranéen jusqu'en Normandie, quasiment. Allez, jusqu'au centre Val-de-Loire, en passant par l'Auvergne, la vallée du Rhône. Beaucoup de pluie, des pluies soutenues entre l'Auvergne et le Limousin. Et cet après-midi, ce sont les orages qui arrivent et qui éclatent. Beaucoup d'orages du Val-de-Saône jusqu'à la vallée du Rhône, des orages également en Auvergne et des orages qui peuvent remonter jusqu'au Loiret. Donc des orages qui localement pourront donner de la grêle et qui seront forts localement avec pas mal de pluie. Les pluies, elles sont soutenues sur la Provence, le Var et les Bouches-du-Rhône, soutenues également du côté des Cévennes. On a encore des pluies sur le Languedoc-Roussillon, comme depuis le début de la semaine. Il y a quand même quelques zones lumineuses. Aujourd'hui, l'Alsace et la Lorraine auront droit à de belles éclaircies, tout comme la façade atlantique cet après-midi. Après les nuages et les pluies de ce matin, on va retrouver des éclaircies entre la Bretagne et le Pays Basque. Et puis, il y a une zone aussi, petite poche, un petit peu plus lumineuse entre les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne et la région parisienne, où là, le temps restera sec avec des éclaircies cet après-midi. Les températures, c'est le grand écart entre le sud-ouest, 10 degrés à Pau, 11 à Rodez et Mende, 12 degrés à Aurillac. Et le nord-est, 26 à Strasbourg, 25 à Metz, 24 à Nancy, 22 à Lille, 20 à Paris et 16 degrés à Bastia.
Merci Anissa Dadi. Bon réveil avec Europe 1, 6h30.
Europe 1, bonjour.
5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Qui est le meurtrier présumé du jeune Matisse à Châteauroux? Mis en examen et écroué, cet adolescent d'origine afghane est connu des services de police à un profil inquiétant qu'Europe 1 vous dévoile dans ce journal. Des souvenirs et des années de joie noyées, puis rasées après les inondations records de l'hiver. Un quartier entier de Blandec dans le Nord va être détruit. Vous allez entendre l'émotion des riverains. Reportage dans un instant. À venir également, les difficultés des voitures électriques. Les ventes chutent, les constructeurs s'adaptent. Certains comme Tesla ont même commencé à licencier. PSG Dortmund ce soir. Dortmund PSG, demi-finale aller de Ligue des Champions dans le chaudron allemand. Le stade et ses 82 000 places. Et puis on apprend ce matin la mort de l'écrivain américain Paul Auster, l'auteur de Léviathan, s'est éteint à 77 ans. On vous en parle dans ce journal. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. J'espère que la justice ne sera pas trop laxiste. L'espoir d'un père endeuillé, celui de Matisse, 16 ans, poignardé à mort dimanche à Châteauroux. Son meurtrier présumé, âgé de 15 ans, a été mis en examen, placé en détention provisoire. Il s'agit d'un jeune Afghan en situation régulière en France. Un jeune homme dont la violence était notoire, Maïlène Trémollet.
Oui, attention à ce que vous allez entendre, il s'agit d'une vidéo inquiétante et violente, non datée, sans lien avec l'agression de dimanche, postée sur les réseaux sociaux par un compte au nom de l'assaillant.
Vous voyez, là, moi j'ai un couteau, voilà, là, je vais aller devant, je suis du 6 de pute, voilà, j'ai trop la haine. Sur la tête de ma mère, je vais niquer sa mère et...
Mineur afghan, situation régulière, né à Kaboul, Rahman, 15 ans, est déjà connu des services de police. Décrit comme un enfant violent, il vit dans le quartier de Saint-Denis, à Châteauroux, au sein d'une famille également connue des forces de l'ordre. Arrogant et provoquant, selon les autorités locales, il proclame régulièrement sur ses réseaux sociaux sa haine des policiers. Ce ressortissant afghan est interpellé en février dernier en possession d'un couteau. Puis la semaine précédant la mort de Matisse, il est même mis en examen pour vol avec violence en réunion. Placé sous contrôle judiciaire, il se vante ensuite de sa garde à vue devant ses amis. Samedi dernier, après avoir perdu une battle de rap, Rahman aurait proposé à Matisse d'en découdre lors d'un combat qu'il aurait perdu. Il serait alors parti chercher un couteau pour se venger, avec la fin tragique que l'on connaît.
Maïlène Trémollet du service politique d'Europe 1.
À 6h32 sur Europe 1, l'heure est donc à l'émotion. À Blandec, dans le Nord, encore traumatisé par les inondations de cet hiver, certains riverains vont devoir dire adieu à leur maison, Fanny.
Oui, elles sont une douzaine rachetées par l'État pour être rasées, car situées dans une zone beaucoup trop à risque. L'épilogue d'une année difficile et une page qu'il va falloir tourner. Reportage du correspondant d'Europe 1, Lionel Gougelot.
On fait plus grand chose, malheureusement. Maintenant, on sait que c'est fini, donc on va même plus chauffer la maison, on arrête.
Vincent Maquignon n'a jamais pu regagner son domicile depuis les inondations de novembre et janvier dernier. Il a eu jusqu'à 1,80 m d'eau dans sa maison. En fait, c'est tout le lotissement qui est devenu inhabitable, alors il sera rasé.
Je sais qu'on aura une boule au ventre derrière, déjà là, on y pense, mais on va nous effacer 24 ans de notre vie. Ça va nous faire drôle, oui. Déjà, quand on va claquer la porte pour la dernière fois, je pense qu'on va partir avec la larme à l'œil. D'un autre côté, c'est pour mieux se reconstruire et mettre la famille en sécurité. Et nos familles en sécurité.
L'objectif maintenant pour Christine, la voisine, c'est d'obtenir une juste indemnisation pour sa maison, mais elle aussi s'est faite une raison. La sagesse l'a emporté.
On ne peut pas avoir de protection ou quoi que ce soit, donc il faut tourner la page, il faut bien se faire une raison, parce que de toute façon, nos maisons, elles ne valent plus rien. C'est vrai que c'était un bon quartier, on s'entendait très très bien. C'est dommage parce que ce sont des belles maisons. Après, c'est pas toujours évident de partir, mais on va rebondir.
Et ironie de l'histoire, quand les maisons seront rasées, les élus envisagent d'aménager à la place un bassin de rétention d'eau pour limiter les prochaines inondations. À Blandec, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et notez ce matin que 14 départements de la Somme à Lyon, en passant par la région parisienne, vont être placés ce soir en alerte aux vents forts et aux orages.
Nous sommes le 1er mai, Fanny, et il y a du nouveau dans votre porte-monnaie.
Et notre pouvoir d'achat va en prendre un coup. Le kilowattheure de gaz naturel coûte 1,4% plus cher à partir d'aujourd'hui. Autre nouveauté, il va désormais falloir payer pour utiliser votre compte personnel de formation, le CPF, un forfait de 100 €, sauf pour les demandeurs d'emploi et les salariés dont l'employeur prend en charge le montant.
L'actualité internationale ce matin, le Royaume-Uni vient d'expulser son premier demandeur d'asile vers le Rwanda.
Un programme basé sur le volontariat avec l'engagement de ne plus revenir en Angleterre. D'ici la fin de l'année, le Premier ministre Rishi Sunak espère réaliser 5 700 expulsions vers Kigali.
Et puis aux États-Unis, l'évacuation cette nuit par la police des militants pro-palestiniens barricadés dans un bâtiment de l'Université de Columbia.
Ils ne sont pas là pour promouvoir la paix, mais pour semer la discorde et la division. Voilà ce qu'a déclaré le maire de New York. Après l'échec des négociations, la présidente de l'Université de Columbia a demandé à la police d'intervenir et de rester sur le campus jusqu'au 17 mai.
6h35 sur Europe 1, réduction des coûts, réduction des effectifs. Et c'est une cure d'amaigrissement sévère chez le constructeur automobile américain Tesla.
Percuté par la concurrence chinoise, Elon Musk a supprimé 2 services et au moins 500 postes. Au total, 14 000 salariés à travers le monde vont être licenciés. Il faut dire que le marché des voitures électriques semble se gripper ces derniers mois. Prix, autonomie, les automobilistes hésitent à se passer complètement du thermique. Un ralentissement qui pourrait durer plusieurs mois, Aurélien Fleureau.
Que ce soit en Europe, en Chine ou aux États-Unis, depuis le début de l'année, le 100% électrique fait moins recette, observe Lorraine Morard, senior analyste chez S&P Global.
Si on observe les données de l'année dernière, donc pour le premier trimestre 2023, on avait une croissance de plus 43% pour le marché de l'électrique en Europe. Si on compare ça avec le premier trimestre 2024, on a une croissance de plus 3,6%. L'accélération s'est nettement ralentie.
Et maintenant que les convaincus de la première heure sont passés à l'électrique, l'enjeu, c'est le marché de masse. Le prix reste un frein. Il y a encore 40 à 50% d'écart par rapport à des modèles thermiques. Et pour Alexandre Marion, associé en charge de l'automobile au cabinet Alix Partners, les craintes sur l'autonomie ne sont pas levées.
Ces doutes, ils sont liés en premier lieu à la disponibilité des bornes de recharge. Là-dessus, il y a énormément d'investissements qui ont été réalisés ces 2-3 dernières années, mais fondamentalement, les clients potentiels ne s'en aperçoivent pas.
Mais la tendance à long terme reste positive. Selon les toutes dernières prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, les immatriculations de véhicules électriques vont augmenter de 21% cette année.
Voilà, Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
On apprend aussi ce matin, Fanny, la mort du grand écrivain américain Paul Auster.
Il s'est éteint chez lui à Brooklyn à l'âge de 77 ans, terrassé par un cancer du poumon. Poète, critique, romancier, scénariste, il avait notamment écrit Moon Palace et Léviathan, au total une quarantaine de livres où sa sensibilité extrême ont été traduites dans plus de 40 langues.
À 6h37, on parle du grand rendez-vous sportif de ce 1er mai, Fanny. Le PSG va affronter ce soir Dortmund en demi-finale allée de la Ligue des Champions.
Coup d'envoi 21h avec une équipe parisienne au complet. Une plongée dans le chaudron du Signal Iduna Park, le plus grand stade allemand, 82 000 places et son fameux mur jaune, des supporters survoltés comme nulle part ailleurs, Cyril de la Morinerie.
Oui, c'est dans cette impressionnante tribune haute de 40 mètres que se retrouvent les plus fervents supporters du Borussia. Tifo immense, écharpe jaune et noire déployée. Les fans de ce club allemand font énormément de bruit, confirme à Europe 1 l'ancien gardien de Dortmund, Guillaume Varmus.
Cette tribune de 22 500 supporters, vraiment le cop, on pourrait dire, qui est derrière le but quand on sort des vestiaires à gauche, là. C'est un moment assez unique.
Une ferveur qui aide bien souvent Dortmund à déjouer les pronostics, rappelle Mathias, supporter du Borussia.
C'est vraiment très très dense comme ambiance, avec les quatre tribunes très proches de la pelouse, avec beaucoup de drapeaux, beaucoup de chants. Oui, effectivement, cela peut faire une grande différence.
Ce stade est d'ailleurs devenu une véritable forteresse. Le club de la Roure n'a plus perdu depuis 3 ans Ligue des Champions sur son terrain. Le PSG espère que ses 3800 fans présents ce soir arriveront malgré tout à se faire entendre.
Cyril de la Morinerie.
Merci Fanny Marceau. Bon réveil ce mercredi 1er mai avec Europe 1, 6h38.
À 7h15, retrouvez les initiatives positives de Jean Z. Ce matin, une intelligence artificielle qui parle la langue des signes. Dans un instant, votre interview écho, Alexandre Lemaire.
On en voit déjà depuis 10 jours, au moins. Hein. Il est en avance cette année. Le muguet, vous allez en offrir ou en recevoir. C'est une tradition bien ancrée. Les artisans fleuristes s'agacent quant à eux des vendeurs de rue qui prolifèrent maintenant avant le 1er mai, avant en dehors de ce jour de tolérance. Il réclame une application stricte de la loi. On en parle dans un instant avec Farel Legendre, président de la Fédération des fleuristes. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1 au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Gérard Larcher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence.
C'est le son qui a marqué l'actualité cette nuit. Au moins 3 explosions comme celle-ci entendues dans le centre de l'Iran.
La question de l'autorité est posée depuis si longtemps qu'il est largement temps de passer des intentions aux actes.
Les faits, c'est quoi? C'est une jeune fille qui ment, qui dit qu'elle a été agressée, qu'elle a été violentée par un enseignant, donc clairement qui lui met une cible dans le dos.
La violence, la faute à qui? Aux parents, oui, débordés ou qui laissent faire.
2 387 000 à écouter Europe 1 tous les jours. Merci, encore merci de votre fidélité. À tout à l'heure, 7h-9h sur Europe 1.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe Origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
Europe 1.
7h-20, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Alexandre, bonjour Omeline.
Bonjour, bonjour chers
auditeurs.
Vous n'avez
pas votre brin de muguet avec
mais
vous.
Mais écoutez, j'y pensais à l'instant, je me disais, c'est pas encore ouvert.
Pas encore.
On va en parler avec votre invité juste après.
Vous n'y manquerez pas. Ouais. À la une d'Europe 1 matin, Dimitri, à partir de 7h.
Ben, on va parler de la mobilisation étudiante, ça ne faiblit pas, en France comme aux États-Unis pour un cessez-le-feu à Gaza. Ça fait 10 jours que les campus, alors surtout de Sciences Po en France, sont en ébullition. Et ça bouge beaucoup dans les facs américaines, à commencer par Columbia. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Columbia, en mai 68, c'est le point de départ en fait, de la mobilisation dans les facs contre la guerre au Vietnam. On est au nord de Manhattan, limite Harlem, et c'est l'Ivy League. Vous savez, c'est l'élite universitaire américaine, avec des budgets élevés, des frais exorbitants, tout ça. Ben, figurez-vous que cette nuit, des étudiants se sont fait déloger par la police du bâtiment qu'ils occupaient. Coïncidence historique, leurs aînés connaissaient le même sort la même nuit du 30 avril au 1er mai en 1968. Depuis le début du campement d'ailleurs à Columbia il y a une semaine, les étudiants de Columbia d'aujourd'hui, ils revendiquent l'héritage de Columbia 1968. Alors pour revenir à la France, on observe que le mouvement est en train d'essaimer, ça a pas mal bougé à l'université de Saint-Étienne, à Tolbiac, à Paris hier matin, à Grenoble. Alors est-ce qu'on vit les prémices d'un nouveau mai 68 étudiant? On va en parler ce matin sur Europe 1.
A tout à l'heure, Dimitri Pavlenko.
L'invité éco avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent.
Europe 1, il est 6h42.
Oh, vous allez peut-être offrir du muguet ce 1er mai ou en recevoir. C'est une tradition bien ancrée. En tout cas, vous serez souvent tenté sur votre chemin. Hein. Le brin de muguet, c'est sans doute ce qu'il y a de plus simple à se procurer un 1er mai. Pas seulement chez le fleuriste, d'ailleurs. Beaucoup de particuliers en vendent sur la voie publique, ce qui irrite les artisans.
Et pour en parler, Alexandre, votre invité sur Europe 1, c'est Farel Legendre, président de la Fédération française des artisans fleuristes.
Bonjour Farel Legendre.
Bonjour Alexandre, bonjour Omeline.
Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce bon matin, ce 1er mai, dans le studio d'Europe 1. Vous représentez près de 30 000 fleuristes en France, hein, 32 000. Ils sont pour la plupart au travail ce matin, hein, malgré le jour férié.
Alors, malgré le jour férié, les fleuristes, effectivement, le 1er mai, sont au travail. La journée a commencé, va commencer aux alentours de 6h30 pour certains.
Oui, elle a commencé et c'est une grosse journée, je veux dire, très rentable hein, pour la profession. Si on prend quelques chiffres, hein, je regarde l'année dernière, les Français ont dépensé quasiment 20 millions d'euros rien qu'en muguet. Ça reste un geste ancré, hein, le muguet le 1er mai.
Le muguet reste un geste ancré et le fait d'offrir du muguet reste bien ancré. Si on reprend sur l'historique de la tradition, c'est Charles IX qui offrait à ses courtisanes du muguet ou des couronnes de fleurs à l'époque, puisque la fête des amoureux de l'époque, c'était le 1er mai. Et pour le coup, ça a été pérennisé par la haute couture parisienne où les grands couturiers offraient à leurs petites mains au moment du 1er mai des brins de muguet. Donc on est quand même dans un geste qui est bien ancré et qui perdure, vous l'avez dit. L'année dernière, à peu près 20 millions d'euros, ce qui est une somme non négligeable. Oui. Il faut savoir que, économiquement parlant, on est sur un marché qui oscille entre 18 millions et 30 millions.
Tiens, ça coûte combien un brin de muguet chez le fleuriste, là, cette année ?
Alors, tout dépend de la qualité, en fait, du brin de muguet. Parce qu'il existe des qualités au niveau des brins de muguet. On va avoir des deuxièmes choix, des premiers choix, qui vont tourner aux alentours de 2 euros, 2,20 euros cette année.
2 euros, 2,20 euros,
le brin.
Le brin, hein.
Le brin,
oui.
Alors, attention, on parle bien de muguet de culture. Donc quelque chose où un producteur, un maraîcher,
non, et pas le muguet cueilli dans la forêt, c'est ce que vous voulez dire.
Et pas le muguet effectivement cueilli dans la forêt.
Bon, donc un muguet qui a un coût, bien évidemment, un produit.
C'est un muguet qui a un coût. On a besoin de chauffer les serres, il y a énormément d'activités. C'est une activité, la production de muguet, qui est extrêmement contraignante. On est obligé de le passer à l'ombre, on est obligé de le rafraîchir, on est obligé de l'arroser. Donc ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Ça nécessite aussi le ramassage, qui nécessite beaucoup. C'est du manuel.
Il est en avance cette année. À chaque fois, on craint souvent qu'il soit en retard. Là, il est bien en avance cette année. Hein.
Cette année, il a à peu près 5 jours d'avance.
Oui.
Et il a fallu justement trouver des ramasseurs au niveau du pays nantais, puisque c'est à peu près 85% aujourd'hui. Nantes a vraiment, en matière de commerce, une prédominance au niveau du marché. Et pour le coup, il a fallu trouver, à la dernière minute, beaucoup de ramasseurs.
Ce qui vous irrite, c'est aussi la raison de votre présence ce matin, Farrell Legendre, c'est qu'une partie du produit de la vente chaque année vous échappe. Hein. Quand on veut offrir ou s'offrir un brin de muguet, on en trouve facilement dans la rue, vendu par des particuliers. Il y a une tolérance le 1er mai, mais uniquement le 1er mai. Or, on ne trouve pas du muguet à vendre dans la rue que le 1er mai.
Absolument, et c'est ce qui nous irrite particulièrement. Et tout en sachant que l'État, en tout cas dans sa fonction régalienne, a fait le nécessaire pour parfaitement réglementer les choses. Le code rural, tout d'abord, qui, quand vous allez chercher du muguet dans les bois, c'est 15 brins par personne et par jour. C'est relativement limité.
C'est comme les champignons, il faut être raisonnable, il y a des règles.
Absolument, il y a des règles à respecter.
On ne dévaste pas les sous-bois.
Absolument, il faut préserver aussi la ressource, parce que les griffes, effectivement, doivent pouvoir se multiplier. On doit pouvoir continuer à trouver du muguet sauvage dans les bois, en forêt. Pour le coup, je le répète, une centaine de brins pour un particulier. C'est pas un banc complet avec du muguet raciné, du muguet préparé.
Donc là, on abuse de la tolérance qui est accordée le 1er mai, c'est ce que vous voulez dire, sur les quantités vendues par chaque particulier.
On en abuse particulièrement, et pour le coup, ce sont des filières qui sont particulièrement structurées, puisque vous allez trouver du pot, vous allez trouver des bancs, des tables. Je le répète, la vente du muguet ne peut pas se faire en fixe.
Oui.
C'est-à-dire, il n'est pas question d'avoir une table, il n'est pas question d'avoir un parasol.
Alors effectivement,
c'est une petite bassine de muguet.
Vous avez raison de rappeler ces règles, parce que cette tolérance, elle n'est pas absolue. Effectivement, elle s'accompagne de conditions. Vous en avez cité deux, donc il faut vendre du muguet en quantité raisonnable. Alors effectivement, tout est dans l'interprétation. Vous dites 15 brins par personne, hein ?
15 brins par personne et par jour au niveau du ramassage en forêt.
Et par jour. Et effectivement, deuxième condition, il ne faut pas que les points de vente soient matérialisés par quelque mobilier que ce soit, ni table, ni tréteau, de la part des particuliers, hein, j'entends. Or là, on voit qu'effectivement, c'est loin d'être toujours le cas.
C'est malheureusement très très loin d'être le cas.
Oui, oui. Donc ça, alors, autre condition, il ne faut pas que non plus que les points de vente soient installés près des fleuristes. Quand on est dans des grandes villes, qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est difficile de ne pas être à proximité d'un fleuriste.
Alors, je dirais de manière assez simple, s'installer à 100 mètres d'un fleuriste, ça ne nous pose pas de problème en tant que tel. On a quand même 100 mètres de distance et c'est parfaitement admis. Je le répète, la Fédération française des artisans fleuristes et les fleuristes que je représente ne s'oppose pas à la vente du muguet. On s'interroge toutefois, mais...
En tout cas, pas le 1er mai.
Mais pas le 1er mai, ça ne nous pose aucun problème. Ce qui nous pose un problème, c'est en amont et en aval. La vente est strictement réglementée et avec une certaine tolérance, vous l'avez rappelé.
Oui.
Nous l'avons rappelé de manière simple, peu de muguet.
C'est-à-dire que ce que vous observez, c'est qu'il se vend de plus en plus souvent du muguet avant et après le 1er mai dans la rue.
Absolument. Typiquement, sur Paris, hier, 3 appels à la préfecture pour faire des signalements. Et je répète, j'exploite dans le 15e arrondissement, dans une zone qui est extrêmement limitée.
Faire des signalements, c'est vous qui les faites, les signalements ?
Alors, les signalements sont réalisés par les chefs d'entreprise.
Par les chefs d'entreprise,
auprès de la préfecture de police.
Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que là, ce qui vous irrite également, c'est cette absence de fermeté, peut-être ? Vous réclamez une application plus stricte de la loi, un rappel à la loi ?
Alors, on entend, hein, je répète, les sanctions sont quand même prévues. C'est-à-dire que la vente en amont, c'est confiscation de la marchandise et destruction.
Oui.
Pour le coup, effectivement, on constate que les pouvoirs publics ont tendance... Il y a un rappel à la loi, un premier rappel à la loi. Et avant d'obtenir la destruction, en fait, de ce qui est vendu, on a quand même beaucoup, beaucoup de temps.
Vous avez adressé une lettre au président de l'Association des maires de France, David Lisnard, ainsi qu'au préfet. C'est ce message que vous leur faites passer ?
C'est le message qu'on fait passer. On travaille pour le coup aussi avec les marchés d'intérêt nationaux et on travaille main dans la main avec eux en demandant des renforcements des contrôles. Le muguet ne peut pas être vendu à n'importe qui sur les marchés d'intérêt nationaux. Et donc, effectivement, on cherche à lutter contre ces filières parallèles qui se sont développées, qui sont une concurrence déloyale.
C'est un chiffre d'affaires important pour vous, le muguet, en tout cas.
Ça représente, pour une entreprise classique, entre 5 et 10% de son chiffre d'affaires.
Oui, donc ce n'est pas...
C'est loin d'être une part faible.
Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Merci, Farel Legendre, président de la Fédération française des artisans floristes. Et bonne journée, j'imagine que vous allez en vendre un certain nombre dans votre magasin tout à l'heure des brins de muguet. Merci.
Merci Alexandre, merci Ombline et belle journée à vous. Belle fête du travail.
C'était l'invité éco avec Banque Populaire. Engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Europe 1, il est 6h49. Dans quelques secondes, Alexandre, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1.
Nous irons aux États-Unis. La probable colistière de Donald Trump dégringole dans les sondages. Christine Noem vient de révéler dans ses mémoires avoir abattu son chien par balle.
Europe 1, bonjour, les initiatives positives.
Bonjour Jean Z.
Bonjour Alexandre, bonjour Ombline.
Bonjour.
Ce matin avec vous, Jean, on parle d'une intelligence artificielle qui parle la langue des signes.
Et oui, depuis l'avènement des IA conversationnelles depuis 2 ans et l'apparition de ChatGPT, on se demande pourquoi cette innovation n'est pas arrivée plus tôt. Elle est le fruit d'un partenariat entre 3 sociétés, Ives, IBM et Soprasteria. Le nom de cette IA, alors vous savez, chaque IA a un petit nom. Il y a Claude, il y a Albert, et Mistral. Alors,
oh, Mistral, c'est pas mal.
Oui, alors j'aurais pu faire un petit jeu. Il y en a 2 qui sont françaises hein, parmi ces 3, et c'est pas Claude. Voilà, Claude. C'est une IA américaine, ça lui va très bien d'ailleurs.
Ben oui.
Et Albert et Mistral sont français, effectivement. Alors, celle qui nous concerne ce matin s'appelle Iris, c'est un chatbot, plutôt un signe bot. Il a été dévoilé en fin de semaine dernière, Iris, qui est le premier bot ou robot à comprendre les langues des signes et à répondre en temps réel, en langue des signes également.
Elle se présente comment, cette intelligence artificielle ?
Et ben, elle peut utiliser n'importe quelle caméra pour capter en fait, les points des mouvements de l'utilisateur et surtout ses mains, en fait, comprendre la demande exprimée en langage des signes. On lui parle en langue des signes également et l'IA, il faut la voir évidemment. Ce n'est pas qu'une simple réponse textuelle ou vocale. Il y a un avatar sur un écran sous la forme d'une personne plutôt réaliste en 3 dimensions et cet avatar qui doit répondre lui aussi en langue des signes naturelle. Alors la solution intègre une technologie IBM, elle peut répondre en français, en québécois, en américain et en tunisien pour l'instant. Concrètement, cette IA, elle est capable de comprendre les langues des signes, d'y répondre. Et ça, en termes d'inclusion, c'est imbattable. Et ce que fait Iris, le premier chatbot en langue des signes, c'est ça, c'est justement d'inclure tout le monde.
Et elle répond à quel type de situation exactement ?
Elle est déployable pour l'instant sur des écrans géants fixes. Évidemment, on pense à des lieux accueillant du public, cinéma, supermarché, lieux d'exposition, les gares. Mais on peut aussi voir beaucoup plus grand, ou on va dire beaucoup plus nombreux avec Iris, à en croire ses concepteurs, puisque ça fonctionne également sur tablette mobile ou encore navigateur web. Et là, ça répond à tout type de situation. Chercher un bon resto autour de soi, un numéro de téléphone, un bon fleuriste, évidemment.
Un bon fleuriste, mais
évidemment,
sûr,
pour trouver son brin muguet. Et l'objectif de l'outil est clair, permettre aux utilisateurs sourds et malentendants de participer plus facilement aux échanges et aux activités du quotidien. Et évidemment, cette arrivée d'Iris sur smartphone serait un grand pas dans ce sens.
La technologie Iris est-elle déjà déployée, Jean ?
Non, pour l'instant, c'est la phase de test. Elle est opérationnelle dans certains lieux. Il y a l'Innovation Studio d'IBM à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. Ce sera également bientôt le cas dans les locaux de Soprasteria à Paris. Mais vous pouvez demander un rendez-vous pour une démo en ligne. C'est sur le site d'Ives, donc une démo en ligne d'Iris. L'idée est de déployer l'outil dans des lieux physiques et sur le web petit à petit, histoire de vérifier que cette IA ne raconte pas n'importe quoi, parce que effectivement, ça peut encore arriver.
Ça peut encore arriver, oui. Elle n'est pas infaillible, non, cette intelligence artificielle. En tout cas, elle rend bien des services.
Exactement.
Merci Jean Z.
Merci à vous.
À demain, Jean, sur Europe 1.
C'était Initiative Positive avec General IPM et Enterprise, les trophées qui valorisent les entreprises responsables.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
6h52, très bon 1er mai, le journal permanent. Fanny Marceau.
On apprend ce matin la mort de Paul Auster, 77 ans chez lui à Brooklyn, des suites d'un cancer du poumon. Immense écrivain américain, poète, romancier, scénariste. Il avait écrit une quarantaine de livres traduits dans plus de 40 langues, dont Léviathan et Moon Palace. Aux États-Unis, c'est l'info de la nuit, l'évacuation de la police. Par la police, des militants pro-palestiniens barricadés dans un bâtiment de l'Université de Columbia. Ils ne sont pas là pour promouvoir la paix, mais pour semer la discorde et la division, a déclaré le maire de New York. 1er mai, du nouveau dans notre porte-monnaie, le kilowattheure de gaz naturel coûte 1,4% plus cher à partir d'aujourd'hui. Par ailleurs, il va désormais falloir payer un forfait de 100 euros pour utiliser votre compte personnel de formation. Sont exemptés les demandeurs d'emploi et les salariés dont l'employeur prend en charge le montant. Et puis le football, le PSG affronte en demi-finale aller de la Ligue des Champions le Borussia Dortmund ce soir 21h sur la pelouse du Signal Iduna Park et son fameux mur jaune de supporters survoltés.
Merci Fanny Marceau.
Dans quelques secondes, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. 6h54, à tout de suite.
Bonjour, c'est Sophie Davant. Quand on a appris qu'on allait recevoir sur Europe 1 le réalisateur des Visiteurs, du Père Noël est une ordure et de Papy fait de la résistance, on a décidé de lui dérouler le tapis rouge. Nous vous proposons une émission de Sophie et les copains spécial cinéma avec comme invité exceptionnel Jean-Marie Poiré. 2 heures de stars, d'anecdotes et de coulisses. Soyez là, on va jouer ensemble.
Sophie et les copains, émission spécial cinéma.
Je vous retrouve demain de 16h à 18h sur Europe 1.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe 1, bonjour.
Europe 1, 7h-5.
La revue de presse internationale. Nous sommes d'abord aux États-Unis. Bonjour, Aviva Fried.
Bonjour.
Vous êtes à Los Angeles pour Europe 1. Aviva, qu'est-ce qui fait la une des journaux américains ?
Il y a une tempête médiatique autour de la gouverneure du Dakota du Sud. Le Washington Post récapitule. Christine Ohm, en bonne position pour devenir vice-présidente de Donald Trump, raconte dans ses mémoires comment elle a abattu par balle sa chienne de 14 mois, Cricket, parce qu'elle n'était pas bonne pour la chasse, qu'elle a tué les poules d'un voisin et que la gouverneure l'a détestée, décrit le quotidien en citant des extraits du livre. NPR explique que si Christine Ohm a parlé de cette histoire, c'est pour prouver qu'elle peut prendre des décisions difficiles et désagréables, même en politique. Mais selon Politico, elle a plutôt créé l'unanimité contre elle. La publication rapporte que les gouverneurs démocrates ont appelé à poster sur les réseaux sociaux des photos de chiens qui ne se font pas tuer, tandis que des républicains ultra-conservateurs ont déclaré que Christine Ohm s'était mise hors jeu pour la vice-présidence. CNN résume. La gouverneure a sans doute sous-estimé l'humanité des propriétaires de chiens.
Partons maintenant au Brésil avec le correspondant d'Europe 1, Jean-Claude Gérès. De quoi parle la presse brésilienne ?
De l'annonce par la société FR Mobility, filiale du constructeur aérien Embraer, de la production du premier prototype de voiture volante en taille réelle d'ici la fin de l'année. Le premier vol commercial est annoncé pour fin 2025, assure le site Geon, même s'il n'y a pas encore de règles pour cette nouvelle façon de se déplacer. Des compagnies comme Boeing, Airbus, Volkswagen et Toyota développent également leurs propres voitures volantes électriques, rappelle Poder 360, mais la compagnie brésilienne a déjà reçu près de 3000 commande de son modèle, le IVT Vol, indique au Globo, et semble avoir un temps d'avance sur ses concurrents. Sans doute parce que São Paulo possède la plus grande flotte d'hélicoptères au monde, souligne le site Sputnik Brasil. Un appareil y décolle ou atterrit toutes les 45 secondes.
On retrouve enfin au Chili notre correspondante sur place, Joséphine Echelard, les gros titres des journaux du pays.
Eh bien, c'est l'attaque contre 3 policiers dans le sud du pays. Ils sont morts après être tombés dans une embuscade et s'être fait tirer dessus, raconte La Tercera. Leurs corps ainsi que leurs véhicules ont ensuite été brûlés par les assaillants. Les faits se sont produits dans une région sous tension où un conflit existe depuis plusieurs années autour des terres ancestrales du peuple Mapuche, écrit El País. Des groupes radicaux ainsi que des bandes criminelles opèrent dans la zone, poursuit le journal, commettant divers délits, sabotage contre des entreprises forestières, vol de bois, menaces et attentats contre les autorités. Cette attaque contre la police est la plus grave survenue depuis le retour de la démocratie au Chili en 1990. Le président Gabriel Boric l'a même qualifiée d'attaque terroriste, même si elle n'a pas encore été revendiquée, précise BBC Mundo.
Merci Joséphine Echelard, c'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Europe 1, il est 6h57.
Dimitri Pavlenko est avec vous. Bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Blin Roche, bonjour Anissa Dali.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Et bonjour, bienvenue chers auditeurs en ce jour férié. Pour l'immense majorité d'entre vous, eh ben bon repos, hein, le joli mois de mai commence. Un petit brin de muguet pour marquer le coup. On aura les traditionnels défilés syndicaux tout à l'heure. Alors est-ce que le mois de mai sera chaud socialement? La question peut vous paraître un peu surprenante parce qu'on a un sentiment d'atonie sociale en ce moment. La vérité est que ça couve à feu doux. Est-ce qu'il se passe à Sciences Po? Est-ce que ça pourrait essaimer dans le monde du travail? Vous savez, c'est le fantasme syndical de la convergence des luttes. On va se pencher sur la situation sociale du pays tout à l'heure à 7h10 avec le premier invité d'Europe 1 Matin. Nous serons avec Bernard Vivier, le directeur de l'Institut supérieur du travail. Le climat social en question, le climat sécuritaire également, fortement dégradé. Il y a du nouveau dans le dossier de l'agression de Samara à Montpellier. Nous parlerons aussi de Châteauroux, de la mort de Matisse à 8h10 avec Béatrice Brugère. La magistrate à la tête du syndicat Unité Magistrat Force Ouvrière sera face à Sonia Mabrouk, invitée de la grande interview Europe 1 CNews. Et puis c'est le grand jour pour le Paris Saint-Germain. Demi-finale aller de Ligue des Champions ce soir contre les Allemands de Dortmund. Alors est-ce qu'ils sont favoris les Parisiens? Anissa Dadi, vous êtes notre experte de football. Oui, ils le sont.
Bah, je pense, oui.
Combien, vos petits pronostics?
2-1 ce soir.
2-1 pour Paris?
Ouais.
Bon, hier soir, le Bayern et le Real se sont
très
séparés
match, hein.
Sur un 2-2, prometteur.
Et
pour
le meilleur
match
hier, c'était le Français. C'était Clément Turpin hier. C'était l'arbitre qui était le meilleur de Real Bayern.
C'est l'experte foot. Elle se couche à pas d'heure alors qu'elle a la matinale derrière. Bon, ben voilà, on va suivre ça ce matin. Omblin Alexandre, en tout cas, on vous souhaite un bon repos. Rendez-vous 5h demain matin à l'Europe 1. Bonjour. Le temps, Anissa Dadi. Alors, attends, il y a des choses à dire.
Oula, oui.
Nous avons 14 départements en vigilance orange ce jour.
Oui, attention aux orages. On va avoir des orages forts entre la Somme et Lyon. La Somme, l'Aisne, la Marne, l'Aube, Lyon, la Seine-et-Marne, l'Oise, le Val-d'Oise, les Yvelines, l'Essonne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et Paris sont en vigilance orange aux orages. Alors aujourd'hui, on a de la pluie quasiment partout. Pour faire vite, je vais vous dire